Bonsoir. Province du Sud Kivu, un groupe de députés provinciaux a décidé de destituer le gouverneur et tout son gouvernement. Ces députés ont agi à travers une motion de censure votée jeudi 24 novembre à l'issue d'une plénière délocalisée. L'examen et le vote de la motion de censure contre le gouvernement provincial s'est déroulé en dehors de l'hémicycle et en l'absence du gouverneur de province pour fournir ses moyens de défense. Mais cette décision est rejetée par le gouvernement provincial qui parle d'un acte de rébellion. Son porte-parole, Jérémy Bassimané, parle d'un théâtre qui n'a aucun effet politique ni même juridique. Pour lui, cette destitution n'a aucun fondement légal et précise qu'aucune disposition légale ne prévoit la déchéance d'un gouverneur dans un restaurant comme ça a été le cas. Quelle est-il faire de cette situation? Quelle solution pour mettre fin à cette crise interinstitutionnelle au Sud Kivu? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 30 novembre 2022. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Frédéric Batandi Bissimoua, il est député provincial du Sud Kivu et président de la commission PAJ et des droits de l'homme à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Il est parmi les députés qui ont voté pour la motion contre le gouverneur de cette province. Frédéric Batandi Bissimoua, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir.
Professeur Jean-Claude Moubalama, il est directeur du cabinet du gouverneur du Sud Kivu. Professeur Moubalama, bonsoir.
Bonsoir madame.
Et maître Soudi Kimputu Alimassi, expert en décentralisation. Maître Soudi, bonsoir.
Bonsoir Kelly.
À Bukavu Sud Kivu, vous nous suivez sous la 95.3. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Province du Sud Kivu, la crise persiste entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Un groupe de députés provinciaux a décidé de destituer le gouverneur et tout son gouvernement. C'était à travers une motion de censure votée jeudi 24 novembre à l'issue d'une plénière délocalisée. Décision rejetée par le gouvernement provincial qui parle d'un acte de rébellion. Nous en parlons avec Emmanuel Elamejoua Kabedi depuis Bukavu.
Emmanuel Elamejoua, bonsoir.
Bonsoir, Donat Madimba.
Comment arrive-t-on à cette situation de destitution?
Disons que le tout est parti d'une motion de censure contre le gouvernement provincial du Sud Kivu. C'est pour la quatrième fois. Et c'était lundi le 29 novembre dernier quand le vice-président de l'Assemblée provinciale avait affirmé avoir transmis la notification au gouverneur de province pour sa défense devant les députés. Fixé donc le jeudi 24 novembre dernier. Quelques heures après, le même jour, c'était un groupe de députés provinciaux qui déposait une pétition, cette fois-là, contre deux membres de leur bureau définitif, dont notamment le vice-président et le rapporteur. Un jour après, le mardi, c'était d'autres députés encore qui déposaient une autre pétition, cette fois-là contre le président ainsi que le questeur. Du coup, c'était la confusion qui s'était installée à l'Assemblée provinciale. Et le rapporteur adjoint, qui était resté pour le bureau, avait instruit donc le directeur de l'Assemblée provinciale de convoquer une plénière le jour suivant pour installer le bureau d'âge, ce qui a fâché le camp des députés pétitionnaires.
Et comment est-on allé progressivement jusqu'au vote de la motion?
L'examen et le vote de la motion de censure contre le gouvernement provincial s'est déroulé dans une plénière délocalisée et c'était même en l'absence du gouverneur de province qui était accusé pour pouvoir fournir ses moyens de défense. Les députés motionnaires justifiaient la délocalisation de la plénière par l'absence des conditions sécuritaires au siège de l'hémicycle provincial à Bukavu. C'est ainsi que, au cours de la plénière délocalisée dans un hôtel de la place, les députés qui étaient présents avaient voté la motion de censure portant destitution du gouvernement provincial. C'est ici le lieu de signaler qu'à la veille, il y avait un message phonique du ministère de l'Intérieur venu de Kinshasa qui avait interdit donc toute activité politique au Sud Kivu tendant à troubler l'ordre public.
Emmanuel Elamejoua, quelle est alors la réaction du gouverneur à cette destitution?
Le gouverneur de province, à travers un tweet, parlait d'un théâtre qui n'avait aucun effet politique ni même juridique. Et aussi, M. Jérémy Bassimane, qui est le porte-parole du gouvernement provincial, avait publié un communiqué contenant la démarche de... Il contestait quoi? La démarche des députés, jusqu'à nier même le quorum des députés qui avaient siégé ce jour-là. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, le gouverneur du Sud Kivu et tout son gouvernement poursuivent leurs activités normalement, donc donnant. Il s'en est suivi de polémiques autour de retrait de fonds publics dans les banques de la place. Le rapporteur de l'Assemblée a écrit aux banques de bloquer tous les comptes de la province. Le gouverneur de province a appelé les banquiers et leur a demandé de poursuivre avec leur collaboration et partenariat comme d'habitude. Voilà, c'est à ça qu'on est en train d'assister à ces jours au Sud Kivu.
Emmanuel Lameji, bonsoir chez vous et merci.
Merci Thomas.
Frédéric Batandi Bissimoa, député provincial du Sud Kivu. Vous êtes président de la commission PAJ et des droits de l'homme à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Vous êtes parmi les députés qui ont voté pour la motion contre le gouverneur de cette province. Que reprochez-vous au gouverneur Teongwa Bidje?
Oui, Madame Kelly, comme vous le savez, nous sommes un organe délibérant, Assemblée provinciale du Sud Kivu, avec notamment comme prérogative les contrôles parlementaires. Nous avons certainement constaté que depuis l'avènement de Monsieur Teongwa Bidje Kassi au pouvoir, les choses ne font que se dégrader en province du Sud Kivu. La gouvernance de M. Teongwa Bidje n'a convaincu aucun Sud Kivucien, sauf ceux qui se complaisent à soutenir les antivaleurs. Nous avons sur tous les plans politiques, sécuritaires, économiques, nous avons passé en revue plusieurs aspects de la gouvernance. Bref, la gouvernance de M. Teongwa Bidje est très très chaotique et les députés n'ont pas su résister à tout ce qui se passe. Ils se sont dit dans des cours d'en finir avec lui. Et c'est ainsi que nous avons initié une motion de censure contre le gouvernement Teongwa Bidje. La motion pour votre gouverne a été signée par 20 députés provinciaux et adoptée par 27. Mais comme vous avez voulu savoir, nous reprochons à M. Teongwa Bidje une gestion chaotique de la province. Difficile de la comparer à la province voisine du Nord Kivu. Tous ceux qui passent, même les touristes, peuvent le constater que nous vivons l'enfer au Sud Kivu. Rien n'évolue. Et on n'est même pas en train de stagner. On est plutôt en train de faire une descente aux enfers.
L'examen, le vote de la motion de censure contre le gouvernement provincial s'est déroulé en dehors de l'hémicycle et en l'absence même du gouverneur des provinces pour lui permettre de fournir ses moyens de défense. Est-ce que votre règlement vous autorise à tenir une telle plénière en dehors de l'hémicycle provincial?
Oui, Madame Kelly, notre règlement intérieur à l'article 5 dispose que lorsque nous sommes en impossibilité de nous réunir au siège ordinaire de l'Assemblée, le bureau peut décider de la délocalisation momentanée des travaux. Je peux les citer si vous me le permettez. C'est le dernier alinéa de l'article 5 de notre règlement intérieur. Je cite, en cas de circonstances exceptionnelles empêchant l'Assemblée provinciale de se réunir à son siège habituel, son bureau peut décider du lieu qui abritera provisoirement ses travaux. C'est ce qui a été fait, tenant compte du dispositif sécuritaire déployé par M. Teongwa Bidje. Il a non seulement envoyé ses policiers de garde, même ceux de sa cellule d'investigation, des badauds de toute la ville de Bukavu ont convergé vers l'hémicycle provincial. Et dans cette attitude, nous avons constaté que le gouverneur à qui nous avons affaire était simplement décidé à créer un scandale à l'hémicycle. C'est ainsi que le bureau a décidé de délocaliser provisoirement les travaux.
Et vous vous êtes réunis dans un bar?
Nous nous sommes réunis à l'hôtel Ruzizi, dans une salle. Nous avons des vidéos, nous avons tout se déroulé sous caméra et tous les députés, du moins ceux qui n'ont pas été empêchés d'y accéder, ont pris part à la plénière et tout s'est déroulé normalement.
Vous avez voté la motion de censure en l'absence du gouverneur. Pourquoi vous ne lui avez pas laissé le temps de venir présenter ses moyens de défense, Frédéric Batandi?
Ce n'est pas que nous ne lui avons pas donné le temps. Monsieur Ngouabidje a reçu notification de la motion de censure le 21 novembre, ainsi que l'invitation à se présenter à la plénière de jeudi 24 novembre pour se faire. Il s'est abstenu de venir. Il a droit de se défendre tout comme de ne pas se défendre. Ainsi y a-t-il apprécié à son niveau et nous, rien ne nous a empêché de siéger, étant donné qu'il était bien notifié et invité régulièrement. Il a d'ailleurs envoyé une lettre à l'Assemblée provinciale accusant réception de la motion et de l'invitation.
Alors le gouvernement provincial qualifie votre acte hein, de rébellion. C'est une pièce de théâtre selon même le gouverneur de province Théo Ngouabidje.
Bon, il a le plein droit de s'exprimer comme il le veut, mais nous sommes régis par des textes, nous sommes dans une république. La Constitution a prévu toute notre démarche, la démarche d'une motion de censure, la loi sur la libre administration des provinces. Et M. Théo Ngouabidje, bien sûr, nous l'avons tous suivi dans un tweet, ainsi que son porte-parole du gouvernement qui qualifiait notre démarche de théâtre désolant.
Et oui, à cause des irrégularités constatées dans la procédure de transmission de cette motion.
Il n'y a aucune irrégularité, madame. Nous avons déposé la motion le 18 novembre. La motion a été transmise en bonne et due forme le 21 novembre au gouvernement provincial. Je ne sais pas ce qu'on appelle irrégularité. Peut-être que le professeur Moubalama, qui est son directeur de cabinet, va nous l'expliquer en pleine émission. Mais je dois vous le dire clairement qu'une irrégularité constatée. Aussi, nous devons signaler que ce n'est pas à M. Ngouabidje d'apprécier ou de décider de la régularité ou de l'irrégularité. Nous avons appris que lors de son conseil de ministres, le conseil du ministre qui s'est tenu au lendemain de l'adoption de la motion, ils ont décidé de ne pas reconnaître la décision de l'Assemblée. Nous, on se pose la question, avons-nous affaire à des hommes d'État? Nous avons un professeur, nous attendons et je pense que toute la population de la RDC aura soif de suivre l'avis d'un professeur en droit qui va dire que non, voilà, la motion est votée, mais nous, ça ne nous dit rien du tout. Et donc, les irrégularités ne sont pas de la compétence du Conseil des ministres ni de Ngouabidje. Nous avons les juridictions de la République qui sont compétentes à apprécier de la régularité ou de l'irrégularité. Mais quant à nous, Assemblée provinciale, tout s'est passé normalement, conformément à la Constitution et à tous les textes en vigueur en RDC régissant cette matière.
Frédéric Battan dit, c'est quand même la quatrième motion en 3 ans, ça fait quand même beaucoup. Certains proches du gouverneur Théo Ngouabidje parlent des motions alimentaires.
Madame Kelly, la deuxième motion de censure, il y a eu 2 motions de défiance au début et 2 autres motions de censure qui s'en sont suivies. Et donc, dire motion alimentaire, nous voudrions bien que l'on nous dise que c'est une motion alimentaire parce que la vie des sites qui vous tient s'est améliorée, que les conditions ont changé, que le gouverneur est à l'œuvre tous les jours en train de travailler, mais tous les sites qui vous tient, je pense que Manuel ne vous l'a pas rapporté quand il faisait la présentation des faits, mais c'est des ovations, de joie, des jubilations qui ont suivi les votes dans la cité un peu de partout. Toute la population a crié à la libération de la province. Il n'est pas question de dire que c'est des motions. D'ailleurs, les jargons motions alimentaires, nous, on ne les connaît même pas dans les pratiques parlementaires. C'est une démarche bien légale et qui est un contrôle parlementaire parfait qui doit aboutir soit à sanctionner positivement ou négativement un gestionnaire. Donc, les différentes motions sont simplement justifiées, comme je l'ai dit au début, par la mauvaise gouvernance de M. Ngouabidje. Il a été cité dans plusieurs dossiers. L'exploitation illégale de minerais à Mwenga, le détournement des deniers publics, la détérioration de des conditions de vie. Aucun territoire de la province ne peut être aisément relié au chef-lieu de la province. C'est la catastrophe un peu partout. Et donc, Madame Kelly, il n'est pas question de détourner les débats. Nous voulons un débat républicain et non pas détourner l'attention des analystes en parlant de jargons qui n'ont rien à faire dans cette démarche.
Frédéric Batandi, le gouverneur est presque fin mandat. Pensez-vous que celui qui viendra après lui aura le temps de remettre la province sur les rails, comme vous le souhaitez, en une année, presque?
Oui, Madame Kelly, je pense qu'il n'est pas question de temps, mais plutôt de volonté. Nous avons besoin des hommes intègres, animés de bonne volonté politique. L'exemple, nous l'avons à l'RDC, il n'est pas à chercher ailleurs. Il n'a pas suffi à Mzé Laurent-Désiré Kabila de plusieurs années pour transformer la RDC. Et même le président actuel, son excellence Antoine Félix du Tshilombo, nous a suivi dès le début. Il a amorcé de grands projets malgré les grandes difficultés de la République. Et donc, il n'est pas question de temps, mais c'est plutôt de bonne volonté, parce qu'en rien du tout, déjà à l'espace de 100 jours, nous avons eu des annonces de grands projets qui ont même laissé des traces et de bonnes traces. Ici au Sud Kivu, je dois vous le dire, ni péter le projet des 100 jours du chef de l'État, même la voirie urbaine serait déjà disparue. Et donc, il n'est pas question de jours, de temps, mais question des hommes intègres et animés de bonne volonté, parce que les ressources, il y en a au Sud Kivu.
Professeur Jean-Claude Mubalama, vous êtes directeur des cabinets du gouverneur du Sud Kivu. La motion de censure a été votée pour destituer le gouverneur et tout son gouvernement provincial, mais ce dernier a rejeté cet acte posé par les députés et a parlé de rébellion. Pourquoi vous avez rejeté cette décision des députés provinciaux alors que, selon eux, tout s'est passé dans la régularité?
Merci beaucoup, Madame Kelly, pour avoir organisé cette émission qui permet en fait à l'opinion de connaître la réalité de cette motion que vous avez qualifiée à juste titre de motion alimentaire. Vous avez vous-même, vous l'avez dit, la motion a été émaillée de plusieurs irrégularités. Je voudrais, à titre d'exemple, vous en donner quelques-unes. Déjà, la transmission de la motion elle-même. Cette transmission a été faite par l'honorable président intérimaire Bissi Mwayabe en date du 21 novembre 2022, alors que à cette date, l'honorable Bissi Mwayabe avait fait l'objet d'une pétition et donc il ne pouvait pas prendre un acte quelconque conformément au prescrit de l'article 22 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale Sud Kivu qui dit « Tout membre du bureau définitif mise en cause, cesse de poser les actes dans ses fonctions ». Et non seulement lui a été pétitionné, mais également les rapporteurs adjoints également. Je pense que M. Emmanuel a oublié de le mentionner. Il a fait l'objet aussi de pétitions. Ça, c'est la première irrégularité. La deuxième, par la suite, il y a eu un communiqué de l'honorable Bumbu Malike, daté du 22 novembre 2022, et ce même communiqué instruit les directeurs de l'administration, Monsieur Keïta Polepole, de pouvoir organiser l'installation du bureau d'âge. La même chose, lui-même, l'honorable Bumbu Malite Job, qui faisait l'objet de la pétition, a aussi posé un acte, celui d'instruire les directeurs de l'administration de pouvoir organiser les bureaux d'âge.
Pour vous, professeur Mubalama, ce bureau-là n'avait pas qualité d'organiser cette plénière.
Mais justement, parce que tous les bureaux avaient fait l'objet de pétitions. Et c'est pour cela que les vice-présidents ne pouvaient pas transmettre la motion. Les rapporteurs Bumbu, même chose. Mais au-delà de ça, parlant du bureau d'âge...
Mais la motion contre le bureau avait été rejetée, professeur Mubalama.
Oui, j'ai dit ceci, j'ai pas du bureau d'âge, je suis en train d'y aller doucement. Le bureau d'âge également qui a été installé et qui a permis que les bureaux définitifs se réunissent dans des conditions on ne peut plus obscures. Ce bureau d'âge également, Madame Kelly, c'est un bureau aussi qui a été constitué par l'honorable Bashengezi, tenez bien, qui ne devait même pas siéger parce que l'arrêt RCRE 062 de la Cour d'appel de Bukavu avait ordonné la suspension de ses députés aux séances plénières de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Vous voyez quelqu'un qui n'est même pas autorisé de siéger, il siège et il devient président de ce bureau d'âge. Un deuxième membre, honorable Georges Musongela, qui devient rapporteur de ce bureau d'âge. Pourtant, l'arrêt déjà RCONS 1703 de la Cour constitutionnelle à l'occasion de l'examen de la requête en inconstitutionnalité de la motion de censure votée le 2 décembre 2021 avait confirmé la déchéance de ses députés comme député. Donc il n'est plus député, mais il a siégé et en plus de siéger, il a été installé comme rapporteur de ses bureaux d'âge. Vous voyez, voilà les bureaux d'âge.
Il y a comme une sorte de cacophonie dans la province du Sud Kivu.
Mais oui, parce qu'un bureau d'âge constitué d'un non-député, honorable Georges Musongela, constitué d'un président qui est interdit de siéger, mais vous allez vous-même conclure, au-delà de ça, il y a même des moins âgés que Musongela, l'honorable Ndabagoï, Richard, l'honorable Kasilembo, qui n'étaient même pas informés du lieu où devait se tenir cette plénière, parce que c'était entre motionnaires, c'était un groupe de motionnaires qui avaient décidé de cacher même les lieux où ils avaient délocalisé la plénière. Et parlant de la délocalisation, une autre irrégularité, vous avez suivi Madame Kelly, honorable Batandi, qui vous a cité l'article 5. L'article 5, effectivement, nous dit que en cas de circonstances exceptionnelles empêchant l'Assemblée provinciale de se réunir à son siège, son bureau peut décider du lieu qui abritera provisoirement ses travaux. J'ai dit bien son bureau. Et l'alinéa précédent nous parle de la plénière. La plénière peut décider de sa délocalisation si nécessaire. Or, dans les cas d'espèce, il n'y a jamais eu une plénière qui avait décidé de la délocalisation. Les bureaux étaient...
Mais les députés ne pouvaient pas se réunir parce que le gouverneur, selon le député Batandi, avait déployé des policiers à l'hémicycle provincial empêchant les députés de pouvoir siéger.
Non, je dois corriger déjà ce niveau. Hein. En fait, je pense que Emmanuel qui a commencé, il vous a dit qu'il y avait un message phonique du VPM qui avait interdit toute réunion à caractère politique susceptible de troubler l'ordre public. Et ces messages étaient adressés au gouverneur des provinces, au président de l'Assemblée et aux membres du Conseil de sécurité de la province. Et donc, les membres du Conseil de sécurité de la province s'étaient réunis à cette occasion en exécution de ces messages du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ils avaient pris des dispositions pour empêcher que cette réunion se tienne. Ça n'a rien à voir avec le gouverneur. Et j'ai entendu dire par honorable Batandi qu'il y avait des membres de la cellule d'investigation, des gardes de corps rapprochés. Il n'y a rien de tout ça, madame.
Professeur Mubalama, comment la tenue d'une plénière peut-elle troubler l'ordre public?
En fait, les circonstances en fait qui ont entouré cette plénière sont lesquelles? Déjà, quelques jours avant, il y a eu des tiraillements en rapport avec la question de la motion. La motion, comme vous l'avez dit, c'est une motion alimentaire. La motion a été émaillée de beaucoup de circonstances comme la corruption. Il y a eu déjà arrestation des deux députés pour corruption. Les dossiers en justice... Ça a créé une tension au niveau de la ville. Il y avait des mandats d'amener qui circulaient pour l'arrestation de ces deux députés. Et il y avait une forte tension dans la ville. Et compte tenu de toutes ces circonstances, en ajoutant, n'oubliez pas à cela que nous sommes dans un contexte d'agression de la partie Est par les pays voisins. Et les informations en possession des autorités font état, justement, d'une insécurité qui a focalisé, justement, l'attention de tout le monde. On est dans un contexte des infiltrations.
Merci.
Et un compte. Oui, mais au-delà de ça, des tensions créées par la situation des députés qui, on doit se le dire, et nous ne devons pas avoir honte de le dire, se livrent à la corruption pour arriver à l'objectif de la destitution du gouverneur de province. La population soutient le gouverneur de province dans ce qu'il fait et ça crée une tension énorme au sein de la population, une psychose sécuritaire et liée aussi au comportement des députés. Et c'est cela, en fait, qui a justifié, à mon avis, la position du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur.
Les députés provinciaux accusent Théo Ngwabidje, notamment des détournements des deniers publics, des mégestions et des spoliations des maisons de l'État. Comment vous réagissez à ça, très brièvement?
Brièvement, Madame Kelly, vous savez que il y a les porte-parole du gouvernement qui a fait une analyse de cette motion. Il a trouvé que c'est du copie-coller de la motion antérieure qui était rejetée par la Cour constitutionnelle. Et donc, ils se sont mis pour arriver à leur objectif, à vite confectionner une motion sans être attentif par rapport à ça. Madame Kelly, c'est regrettable que les députés disent qu'il y a eu détournement, il y a eu mégestion. Ces détournements, cette mégestion se constate par des contrôles parlementaires. L'honorable Batandi l'a dit. Vous pouvez lui poser la question de savoir combien des rapports parlementaires de contrôle ont été portés à la connaissance du public. Je vous avoue que il y a eu plusieurs contrôles et aucun contrôle n'a établi cette mégestion, ces détournements. Ils évitent même de porter à la connaissance de l'opinion les résultats de ces contrôles. Alors comment vous pouvez parler
du détournement de la mégestion? Professeur, merci, on va vous redonner la parole. Le temps pour nous de prendre Maître Soudi Kim Poutou Alimassi, qui est expert en décentralisation. Maître Soudi, quelle est-ce que vous faites de cette situation? Une cacophonie qui règne dans la province du Sud Kivu.
Merci beaucoup, Kelly. L'analyse technique d'experts en décentralisation autour de cette question appelle à faire quand même quelques constats. Le premier constat amer, et c'est lui qui nous permet de voir que la situation de la décentralisation en République démocratique du Congo est en train d'aller vers un échec total. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la constitution de 2006 avait prévu la décentralisation comme mode de gestion pour rapprocher d'abord les gouvernants des gouvernés et avec comme objectif principal promouvoir le développement local. Et pour arriver à ce développement local, il faudrait que la population puisse choisir ses dirigeants et il y a des indices d'évaluation de ce développement local. Ces indices sont, par exemple, l'eau potable, comment elle est donnée à la population, les soins de santé, l'éducation, les infrastructures. Ce n'est pas le militantisme qui est le critère d'évaluation d'un dirigeant dans une province ou dans une entité territoriale décentralisée. Tout ce qu'il y a comme critère d'encadrement de cette décentralisation, parce que nous ne sommes pas dans un processus désintégré, c'est ça qui sera comme un élément essentiel au niveau de la Constitution, qui a prévu à ce qu'il y ait des mécanismes de contrôle avec tout ce qu'il y a comme motion de défiance ou de censure, en vue de permettre à ce que les mauvais dirigeants soient mis de côté. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Que le politique, surtout avec tous les changements que le pays subit, oublie totalement le processus, parce que ce processus devait avoir un comité national de pilotage qui puisse suivre tous ces aspects qui se passent au niveau de toutes ces provinces. Et ce comité de pilotage regroupe les ministères sectoriels et toutes les institutions qui puisse permettre à ce que le pays puisse connaître une gestion paisible au niveau des provinces et des entités territoriales décentralisées. Regardez la situation du Sud Kivu. D'abord, c'est un clientélisme politique de part et d'autre, que ce soit au niveau du gouvernement provincial, que ce soit au niveau de l'Assemblée provinciale. Celui qui se croit être membre d'un parti politique ou de, je ne sais pas, d'un mouvement politique quelconque, et celui vraiment est même capable de battre en brèche comme exigence de gestion avec l'idée que sa position politique va l'aider à le maintenir au lieu de vers les objectifs de cette décentralisation qui sont le développement local. Alors, les cas pratiques du site Kivu ici, vous allez remarquer qu'il y a une cacophonie totale. On ne sait pas quel est le bureau compétent qui doit prendre des décisions parce qu'en temps de parler, les deux protagonistes. Il y a un bureau définitif qui n'était pas. Il y a un bureau d'âge qui aurait pris une décision dans lequel il y aurait des personnes non habilitées. Vous avez entendu pour moi que le gouvernement provincial.
Maître Soudi, on a un petit souci avec votre ligne téléphonique. Essayez de bouger pour améliorer la qualité de la ligne.
D'accord. Est-ce que vous me suivez là-bas?
Ça s'est amélioré un peu. Allez-y.
Alors, vous allez vous rendre compte que le gouvernement provincial aussi, apparemment, la décision de l'Assemblée provinciale ne lui dit rien parce qu'il y a, il serait rassuré peut-être d'un autre mécanisme qui ne lui fait pas peur parce que la décision de l'Assemblée provinciale doit faire peur à un gouvernement provincial. Vous allez remarquer cette cacophonie même au niveau du gouvernement central. Regardez le projet de développement local de 145 territoires qui, en principe, doit être coordonné, supervisé par le ministère et à la décentralisation dans ses attributions. Lisons les attributions même du ministère du gouvernement central. Mais ce projet est aujourd'hui au ministère du plan qui devait être un membre du comité de pilotage. Donc nous avons un problème réel et cette cacophonie du CIVU appelle à ce qu'il y ait une décision de justice, que le juge puisse vérifier la régularité de toutes ces décisions. Parce que vous allez demander comme moi, avant cette motion, nous qui suivons la décentralisation de près, lorsqu'il y avait le bruit de la motion, on a vu par exemple le gouverneur de province faire une adhésion populaire et après le bruit en circuit.
Votre ligne est en train de se détériorer, Maître Soudi. On va demander à la réalisation de vous rappeler pour voir si la ligne va s'améliorer. Frédéric Batal Dibissi, moi, il y a des auditeurs qui sont nombreux à appeler, qui veulent aussi intervenir, donner leur point de vue sur notre thème de ce soir. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Beni, au Nord Kivu.
Fabrice Ambili, depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. À mon avis, même si le gouverneur peut être déchu au pied du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, sa déchéance, je pense que ça doit se faire aussi dans les règles. Parce que nous ne sommes pas dans une jungle où un groupe d'individus se retrouve dans un début de boisson et décide sur le sort d'un gouvernement sans qu'une plénière soit organisée au siège de l'Assemblée provinciale reconnue par la loi pour permettre au gouvernement de présenter ses moyens de défense sur les griefs pour lesquels il est reproché. Donc vous comprenez que l'action posée par les élus provinciaux du site Kivu traduit le manque de maturité et de patriotisme des élus du peuple au vrai sens du terme. Juridiquement parlant, je me pose des questions liées aux formes de sa destitution. La première question, je me pose notamment où s'est tenue la plénière pour sa destitution et dans quelles conditions. Est-ce qu'il y a-t-il été invité? Donc vous comprenez qu'il s'agit juste d'une parodie de destitution au vrai sens du terme.
Vous allez nous excuser pour la qualité de la ligne téléphonique de notre auditeur qui nous a appelé depuis Beni au Nord Kivu. Brève réaction, Frédéric Batandi.
Je salue la réaction de l'auditeur de Beni, mais je dois préciser que tout s'est passé selon les règles qui régissent la République. Je venais de le dire que lorsque l'Assemblée provinciale est dans l'impossibilité de siéger normalement au siège de l'Assemblée, l'Assemblée est dotée de compétences et pouvoirs de pouvoir délocaliser ses travaux provisoirement. Et ce qui a été fait, vous l'avez bien dit et suivi, que les dispositifs policiers des badauds ainsi que de la garde rapprochée du gouverneur installée et déployée à l'Assemblée pour nous empêcher d'accéder à l'enceinte de l'Assemblée ne pouvaient pas permettre la tenue apaisée de la plénière. Et lorsque le règlement intérieur nous donne la possibilité de délocaliser les travaux, on ne nous dit pas qu'il faut les délocaliser à l'église, dans une salle de réunion ou dans la rue. Mais nous avons choisi une salle de conférence d'un hôtel de la place Ruzizi et notre bureau a publié avant la tenue de la plénière qu'au regard de telle situation, la plénière est délocalisée. À l'instant même, le communiqué est parti, a été lancé et le message a été lancé à tous les députés provinciaux. Chacun l'a reçu par SMS dans le groupe WhatsApp. Tous les appels ont été faits individuellement pour dire aux députés, voilà, au regard des situations confises orchestrées par monsieur le gouverneur des provinces, Théongo Abidjé, actuellement gouverneur déchu, on ne sait pas se réunir chez nous et en application du règlement intérieur, retrouvons-nous à l'hôtel Rouzizi. C'est un communiqué qui a été dûment signé par les rapporteurs et publié. Tous les députés ont convergé vers les lieux. Certains ont été empêchés d'y accéder, mais heureusement pour la province du Sud Kivu, la plénière s'est quand même tenue. Donc, il ne s'agit pas d'une parodie de plénière.
Merci Frédéric Batondé.
Dans les contextes dans lesquels on était placé.
Professeur Jean-Claude Moubalama, il y a aussi une réaction pour vous qui nous vient du Bazouélé.
C'est bienvenu Mbali dans la province de Bazouélé, territoire de Bambesa, dans la cité de Dingila. Cette situation qui règne entre l'Assemblée provinciale de Sud Kivu et le gouvernement provincial n'est qu'un bis repetita en RDC, comme ce fut le cas du gouverneur Jabamanta Saïdi en province de Lituri. Des situations pareilles se produisent souvent lorsque le gouverneur et son gouvernement veulent à tout prix faire taire les députés et les empêcher à exercer le devoir démocratique, celui de contrôler le gouvernement provincial, par des intimidations en droit des députés ou même par ailleurs, assaillant les portes de l'hémicycle. Alors, le gouverneur et son gouvernement ne doivent que boire le vin qui est déjà tiré, car le plus souvent, nos gouvernants ne veulent pas écouter et prendre en compte les revendications de leurs électeurs.
Professeur, commentaire.
Merci beaucoup, madame. En fait, je dois dire que le point de vue de notre intervenant du Bazouélé ne se justifie pas. Pourquoi? Il estime que le gouverneur empêche aux députés de faire leur contrôle, il les intimide, il n'en est rien du tout, parce que, je vous l'ai dit avant, il y a eu environ 4 contrôles parlementaires. Mais le problème, c'est que les députés n'ont jamais rendu public les résultats de ces contrôles, parce que à travers ces contrôles, ils n'ont rien trouvé comme détournement des deniers publics, que sais-je. Mais je voudrais aussi, revenant sur ce que l'honorable
Batang venait de dire.
Au fait, la délocalisation dont on parle, elle est irrégulière, parce que ce n'est ni la plénière, ni les bureaux de l'Assemblée qui, au regard de l'article 5, a délocalisé ces lieux. Mais aussi, après avoir délocalisé, est-ce que, c'est la question qu'il faut poser à l'honorable Batandi, ont-ils pris soin de signifier au gouverneur les lieux de la délocalisation pour prétendre que le gouverneur ne s'est pas présenté? Ça, c'est une violation flagrante du droit de la défense. Ils auraient dû informer aussi les gouverneurs de province pour dire, vous étiez initialement invité pour vous présenter au siège de l'Assemblée, mais on a délocalisé. Ils ont délocalisé entre eux, l'émotionnaire. Il y a même beaucoup de députés qui n'ont pas su où ils s'est cachés dans un hôtel, contrairement à ce qu'ils sont en train d'alléguer.
Maître Soudi, Yabamporiki, Isaac et puis Bukavu, qui pensent qu'il faudrait que le gouverneur soit élu par la population, même à main levée, comme cela fut organisé par M. Laurent Désiré Kabila au collège Alpha Diri à Bukavu en 1997. Ainsi, le gouverneur pourrait être beaucoup plus redevable envers la population et pourrait être disposé à servir cette dernière au lieu d'être à la merci des autorités morales qui savent manipuler au gré de leurs intérêts égoïstes. L'élection du gouverneur, son contrôle et sa destitution par l'Assemblée provinciale a montré ses limites dans ce pays qui a du mal à lutter contre la corruption et le trafic d'influence. Il faudrait vraiment que le constituant congolais se penche sur la question des institutions issues du suffrage indirect.
Je crois que M. Pampouri a parfaitement raison, mais cela ne suffit pas. Il faudra encore des mesures d'encadrement, parce que ce gouverneur-là peut être élu au suffrage universel direct. Mais s'il n'y a pas de mécanismes de contrôle qui vont permettre à ceux qui ne puissent pas se considérer comme un petit monarque à la tête de la province, donc on va retomber sur les mêmes choses que nous sommes en train de reprocher aujourd'hui. Je crois qu'il y a nécessité à ce que le gouvernement de la République puisse redynamiser ce qu'on appelle le comité national de pilotage de mise en œuvre de la décentralisation, avec le ministre ayant la décentralisation à la tête, qu'on lui confère de tous les pouvoirs. Deuxièmement, nous avons remarqué la fragilisation des institutions provinciales appelées assemblées provinciales, par ceux qui tiennent l'exécutif. Ils prennent la puissance politique avec laquelle ils sont revêtus et ils utilisent les instruments de l'État pour empêcher à ce qu'il y ait un contrôle parlementaire. Quand on est un bon gestionnaire, comment on peut avoir peur d'un contrôle? Il faut se livrer au contrôle, vous allez vous expliquer. Deuxièmement, il y a un problème aussi au niveau des assemblées provinciales. Il y a ceux des députés provinciaux qui croient qu'ils doivent gérer au même titre que les gouverneurs de province ou s'enrichir au même titre que les gouverneurs de province. Parce que les élections au second degré aujourd'hui avec l'existence des assemblées provinciales, on les situe parmi les institutions les plus corruptibles de la République. Et s'il y a la corruption dans notre pays, si notre pays est classé parmi les pays les plus corrompus, au sein des institutions, les assemblées provinciales aujourd'hui sont comptées parmi ceux-là. Alors il y a un mal presque généralisé. Je pense qu'il y a nécessité qu'il y ait un grand forum d'évaluation de la mise en œuvre et que ceux qui sont censés donner l'impulsion de ce processus puissent tenir ces dossiers en main à ce que, pour permettre à ce que tous les acteurs impliqués apporter les avis en vue d'améliorer le processus. Parce que la situation du Sud-Kivu, c'est une cacophonie généralisée. Le gouvernement provincial destitué, on ne sait pas si ça a été régulier, parce qu'il y a des bureaux là-bas, on dit qu'il y a des membres qui étaient dans les bureaux d'âge qui ne sont pas membres et qui ne devaient pas voter, alors que l'Assemblée provinciale, c'est tout à fait normal, parce que c'est prévu dans les règlements intérieurs qu'ils peuvent délocaliser s'ils sont empêchés de poser leur mission au niveau de l'hémicycle consacré pour ce faire. Et de l'autre côté, cette délocalisation faite, la procédure de destitution doit être respectée parce que c'est bien consigné dans les règlements intérieurs. Et lorsque vous entendez les deux protagonistes, on ne sait pas vraiment se fixer qu'est-ce qui a été réellement fait. Il y a une confusion totale et un amalgame généraliste.
Merci, Maître Soudiki Mputu. On va considérer ces propos comme votre conclusion parce que nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Frédéric Vatan Dibi, 6 mois. Vous avez voté la motion de censure. Pour vous, le gouverneur des provinces et son gouvernement sont destitués. Le gouverneur ne dirige plus la province. Mais à ce jour, le gouverneur du Sud Kivu et tout son gouvernement poursuivent leurs activités normalement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là?
Madame Kelly, actuellement, nous avons des gens non revêtus de compétences et pouvoir nécessaire pour diriger la province. Suffit-il de lire l'article 160 de la loi électorale, celle qui est révisée à ce jour? Cette loi dispose que lorsque l'Assemblée adopte une motion de censure, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Et dans ces conditions, dans les 24 heures, le gouverneur de province doit déposer la démission de son gouvernement au président de la République. La même disposition légale poursuit en disant, et c'est là que je vais insister, à signaler à toute l'opinion provinciale et nationale que passé le délai de 24 heures, la démission est d'office. C'est que aujourd'hui, nous avons un gouvernement provincial qui assume les affaires courantes sous la direction du vice-gouverneur conformément à la loi. Tous les actes que M. Ngouadidje est en train de poser en se revêtissant de la qualité de gouverneur alors qu'il est déjà déchu, l'expose à des risques énormes de poursuites judiciaires. Je ne sais pas si nous avons affaire à un professeur docteur en droit.
Merci qui amène Frédéric Matandi.
À la radio au lieu de saisir la Cour constitutionnelle compétente pour examiner ces irrégularités.
Professeur Jean-Claude Moubalama, comment faire pour sortir de cette crise interinstitutionnelle au Sud Kivu?
Oui, merci beaucoup, Madame Kelly. Comme c'est la conclusion, avant de répondre à votre question, je dois encore redire.
On n'a plus le temps, professeur. Allez directement à la conclusion.
Oui, je disais, c'est en une minute. Hein, tous les processus, comme vous l'avez constaté, a été émaillé des irrégularités. La motion de censure en question, nous ne la connaissons même pas parce qu'elle n'a jamais été portée à notre connaissance. L'Assemblée a prétendu avoir notifié cette décision à travers une lettre adressée aux banques, mais nous n'avons jamais vu cette notification. C'est caché, autant qu'ils se sont cachés pour décider, autant ils cachent. Même les PV, il n'existe même pas où il est caché. Comment faire? De toutes les façons, les voies de recours sont prévues par la loi congolaise. Il a même évoqué les recours à la Cour constitutionnelle. Ce qui est évident, c'est que la Cour constitutionnelle ne peut que annuler cette motion parce que déjà il avait annuler la précédente, entre autres motifs que Moussongela George avait signé la motion de censure. De nouveau, elle est signataire.
Professeur, qu'est-ce que vous proposez pour sortir de cette crise?
Pour sortir, il faut que les deux instances se mettent ensemble, l'Assemblée provinciale et l'exécutif, pour examiner de commun accord dans quelle mesure ils peuvent continuer à travailler en collaboration pour les biens de la population. Parce que les députés, ce qu'ils font, c'est très honteux. Quand la corruption est faite au grand jour, je me demande même si ils auront des électeurs en 2023.
Merci, professeur.
C'est très honteux. Ils ont intérêt.
Merci, professeur.
Ils ont intérêt à se rester dire pour que les deux institutions se mettent ensemble et œuvrent pour l'intérêt de la population. Merci, madame.
Merci, professeur. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé. Jean-Noël Mokonde était à la mise en onde. Merci également à Donna Madimba qui nous a assisté. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.